Bonsoir et bienvenue dans la première séance du dimanche de 2022. Pour bien commencer l'année, nous avons décidé de faire un bilan de l'année dernière avant de regarder vers les 12 mois qui viennent. Des cinémas fermés pendant 5 mois, des films qui se sont bousculés dès la réouverture, des sorties assez limitées dans le temps, sans oublier les plateformes de streaming omniprésentes, on peut dire que 2021 aura été une année particulière pour les cinéphiles. Et année particulière, émission particulière, mais équipe toujours en grande forme. Je suis ainsi entouré des 3 mousquetaires de Vitamine Ciné, et pour bien commencer 2022, je vais vous les présenter justement à travers chacun des 3 mousquetaires. De l'âme noble et distinguée, adepte de l'art de l'escrime, de l'équitation et buveur, c'est l'athos de l'émission. Bonsoir Lucas.
Bonsoir Nicolas.
Gentleman, son discours d'études ecclésiastiques transpire de la connaissance des arts et de la langue latine. Il compose souvent des poèmes, c'est notre Aramis. Bonsoir Louis.
Bonsoir Nicolas.
Enfin, et je n'invente rien, c'est écrit sur Wikipédia, le sang des 3, un peu grande gueule, joue souvent des dés et la plus musclée, sans aucun doute, des mousquetaires. Bonsoir Porthos, ou plutôt bonsoir Adeline.
Bonsoir Nicolas.
Enfin, Victor n'est malheureusement pas disponible aujourd'hui. C'est donc notre mixeur officiel, dont vous connaissez le nom si vous êtes un fidèle de l'émission, qui s'occupe de la réalisation. Nommons-le pour l'occasion, pour les 3 mousquetaires, le cardinal de Richelieu de l'émission. Bonsoir Monsieur Santaliestra.
Bonsoir à tous.
Il y aura aussi une invitée mystère que l'on pourra nommer Milady, toujours pour rester dans le thème.
Et que serait cette émission sans celui qui a soufflé hier sa 24e bougie ? De nombreux films de 2021 ont justement été tournés dans la ville qu'il a vu grandir, Marseille. Tel Arthur dans Kaamelott, il est le roi de notre table, produisant et préparant chaque émission de main de maître. S'il était un acteur, il serait probablement Adam Driver, tant il a été remarquable cette année. Le N, c'est le S, c'est Nicolas Santaliestra. Nico, comment vas-tu ?
Je suis très flatté et honoré, j'ai plus les mots, donc c'est quoi ? On va lancer un medley des tops de l'année.
Allons-y.
Julia. Du kan ikke kjenne alle hos oss. Ha en kjæreste som er veldig glad i.
Ok.
Ha det.
First time I fell in love. Woke up next to the girl. And escaped. Fast and far. The man has changed me. What I see in her is obvious. What she sees in me is...
Et avant de rentrer dans le vif du sujet des films que l'on a adorés cette année, je crois qu'Adeline, tu voulais nous parler des films qu'on n'a pas vus cette année.
Et oui, parce que finalement, en fait, les cinémas ont réouvert assez tard cette année, puisqu'ils ont réouvert le 19 mai, une période assez charnière pour le monde du cinéma, puisque c'est l'entrée dans l'été, le moment du printemps, pas du tout une époque où les gens ont envie de s'enfermer dans des salles obscures. Et finalement, en fait, on a eu des grandes sorties, notamment Kaamelott, que je n'ai pas pu voir justement à cause du fait qu'il est sorti dans l'été. Et donc, c'était un peu frustrant, mais je pense que pour moi aussi, la grande frustration, ça a été la différenciation et la diversité des plateformes et le fait qu'il y ait beaucoup de gros films et des films attendus qui soient sortis sur certaines plateformes peu accessibles. Je pense notamment à Amazon, pour lequel, en fait, moi, j'ai pas d'abonnement et j'ai pas d'envie d'avoir un abonnement, mais je pense qu'en fait, il y a des créations originales qui sont très intéressantes. Et notamment un film qui est sorti en salle, mais que j'ai raté, et qui s'appelle The Sound of Metal. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais pour moi c'est ma plus grosse déception, c'est-à-dire que j'adore l'acteur Riz Ahmed. Je pensais que le sujet était super intéressant, c'est-à-dire un batteur d'un groupe de métal assez connu qui en fait découvre qu'il est atteint du coup de sourdité, et qui va commencer à devenir sourd, et en fait qui va devoir s'adapter à ce monde du coup de l'handicap, alors qu'il est passionné de son et de musique. Et j'ai trouvé ça très intéressant et dommage en fait de pas avoir pu le voir, de pas avoir eu un accès parce que du coup après il est sorti sur Amazon en même temps. Apparemment il est sorti en salle mais moi j'ai pas du tout eu accès et en fait j'ai connu ce film a posteriori, bien plus tard où en fait on a fait des sujets par exemple sur Riz Ahmed et on a parlé de ce film et j'étais là mais ça a l'air d'être un film super intéressant. Et pour moi, c'est ma grande déception de l'année, et je sais pas si vous en avez aussi. Mais...
Bah pareil, je voulais voir Sound of Metal, mais il a dû rester une ou deux semaines au cinéma pendant l'été, donc impossible de le voir, et malheureusement après ça se retrouve très vite en téléchargement, mais évidemment j'aurais préféré le voir au cinéma, mais je n'ai de toute façon pas encore vu. Toi Lucas, est-ce qu'il y a des films que tu n'as pas vu, que tu voulais voir?
J'ai pas d'immenses regrets là, cette année. Après c'est vrai que on a une tendance là ces dernières décennies à l'accélération du nombre de films proposés chaque semaine, d'autant plus dans le contexte épidémique avec une sorte d'embouteillage qui s'est créé. Mais cette année, je suis quand même non, il n'y a pas de film où je me dis ah, j'aurais quand même voulu le voir dans une grande salle. Mais là dernièrement, quand même, Illusion perdue que j'ai raté. Moi, il est peut-être encore dans certaines salles, mais que j'ai très envie de voir. Mais sinon, non, pas vraiment de regrets.
Et toi, Louis?
Ouais, il y a des films que j'ai pas vus et dans des genres et avec des regrets très différents. Dans l'émission précédente, on parlait, enfin surtout vous parliez du coup de The Last Duel de Ridley Scott que j'ai très envie de rattraper du coup. Et il y a France de Bruno Dumont que j'ai malheureusement raté et j'en ai entendu tellement de bien ensuite que j'ai un immense regret.
Ouais. Tout le monde a raté.
Pas tout le monde, mais.
Enfin, il est passé un peu inaperçu, il est passé très rapidement alors que.
Et les retours sont tellement dithyrambiques en tout cas autour de moi que là pour le coup c'est un grand regret. Et un troisième regret que j'ai noté, c'est à l'abordage de Guillaume Braque. Peut-être qu'on en parlera dans cette émission. Parce qu'a priori, il fait partie des belles découvertes de cette année 2021. Et il faudra donc que je le rattrape dès que je le pourrai.
Et par ailleurs, on peut aussi anticiper sur la période de Noël qui, pour moi, je pense, va être catastrophique. Parce qu'il y a énormément de films qui sortent. Mais je sais très bien que, en fait, Matrix, je ne vais pas réussir à le voir dans le temps imparti de Noël. Spider-Man sort la semaine prochaine au moment où on enregistre. Et c'est vrai qu'en fait, c'est assez décevant. Mais je pense que je n'aurai pas l'occasion de le regarder dans le temps imparti. Et je trouve que c'est ces périodes-là, Noël et l'été, où finalement, en fait, il y a souvent des grosses sorties, des gros blockbusters, mais en fait, parfois, on n'a pas les moyens de pouvoir se déplacer jusqu'à des cinémas parce qu'on a des endroits un peu plus reculés. Et ça, ça va être mes gros regrets, je pense, notamment Matrix. J'ai très peur de le rater.
N'ayons aucun regret, peut-être parlons de suite de notre top de l'année. Je ne sais pas si vous avez fait des top 10 hiérarchisés ou pas. Je vais commencer avec toi, Lucas. Est-ce que tu peux nous dire tes films préférés qui t'ont marqué?
Ouais, bien sûr. Pas de top 10 hiérarchisés, mais un ensemble de films. Dans le medley là, que tu as très brillamment monté. On entendait Onoda d'Arthur Harari, qui est un de mes immenses coups de cœur. Et là, je suis vraiment très content de l'avoir vu au cinéma pour le coup, parce que je pense que c'est à voir dans une salle obscure, ne serait-ce qu'au niveau de l'ambiance sonore, de la pluie qui tombe sur sa cabane. Bon, là, on en avait déjà parlé. T'as parlé d'À l'abordage, et j'en reparlerai tout à l'heure quand on évoquera nos scènes marquantes. Là aussi, immense coup de cœur d'un réalisateur, Guillaume Braque, que je vais suivre à chacun de ces nouveaux films là carrément. Et sinon bah beaucoup de films de la sélection cannoise où nous étions présents, Nicolas, Julien 12 chapitres, Annette bien sûr que j'y avais aussi dans ton petit montage, et France que en tant qu'adepte de Bruno Dumont j'ai également aimé.
Et c'est vrai que t'as cité Onoda et Julien 12 chapitres, et on a vu tellement de films en l'espace de 10 jours que je ne sais pas si je les ai vraiment appréciés à leur juste valeur, que j'aimerais peut-être les revoir, notamment Julien 12 chapitres, où on avait vraiment eu tous les deux un coup de cœur pour ce film. Pareil, Onoda, j'étais fatigué, mais j'avais adoré ce film d'Arthur Harari qui, on le rappelle, raconte l'histoire de ce japonais qui ne croit pas à la fin de la guerre et qui reste pendant une trentaine d'années, je crois, ou 25 ans.
30 ans, ouais.
30 ans seul dans la jungle aux Philippines. Enfin, pas seul, mais avec un seul de ses amis aux Philippines. Moi, il y a un film que j'aimerais vous recommander, que j'ai vu il y a deux jours. C'est le dernier film que j'ai vu à l'heure où on enregistre cette émission. Je vois que Louis sourit car il sait de quoi je parle. C'est tout simplement West Side Story. Alors, c'est une comédie musicale que j'ai découverte il y a une semaine, d'ailleurs, avant d'aller voir le Spielberg. Une comédie musicale que je trouve assez sympa. Il y a un grand travail qui est fait sur la danse, qui est une comédie musicale, donc qui est chantée, mais qui est aussi beaucoup dansée. Et toute l'intro de West Side Story, donc de l'original, je la trouve incroyable. L'histoire est très sympathique, ça reste assez classique, hein, c'est du Roméo et Juliette. Comme dans beaucoup de comédies musicales, je trouve qu'il y a quelques longueurs dans West Side Story des années 60, même si je trouve la fin très belle, etc. Et alors là, avec le West Side Story de Spielberg, c'est pas forcément mon film préféré de l'année, mais je me suis dit, ah, quand même, ça fait du bien de voir un film aussi bien réalisé. C'est Tonton Spielberg, il a plus rien à prouver, il a 74 ans, c'est comme Ridley Scott, même si je dois préférer avouer Steven Spielberg. Et là, il arrive et il filme un film de son enfance, il refait un film de son enfance, mais à la fois avec un discours d'aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de thématiques qui sont très actuelles, qui datent des années 2020, mais avec une maîtrise de la mise en scène, j'ai très peu vu ça, voire pas du tout au cinéma. Spielberg, c'est un cinéaste qui est très fluide dans sa façon de faire ses plans. Ça bouge tout le temps chez Spielberg. Il fait toujours des plans séquences sans que ça soit non plus démonstratif. C'est toujours, il y a une vidéo sur YouTube qui explique très bien ça. Ils appellent ça le one-hour de Spielberg. Où en gros, il raconte, chaque plan raconte une petite histoire en soi. en faisant, sans couper le plan, en étant très, très simple quoi, dans la mise en scène, alors que c'est du génie, évidemment. Et là, c'est tout à fait adapté pour une comédie musicale, et j'en parlerai dans les scènes marquantes de l'année, je parlerai de deux scènes de danse. Et là, tout se fait avec un naturel et une élégance tout le long de ces 2h30, que c'est, on se dit, bah, Spielberg devrait réaliser plus de comédies musicales, et je recommande à tout le monde. Toi, Louis.
Bah moi, ça confine un petit peu à la comédie musicale. Le film marquant pour moi cette année, c'est Annette, de Léos Carax. C'est peut-être pas le film que j'ai préféré cette année, bien que je l'ai beaucoup aimé, rien que pour la performance d'Adam Driver. Il y a des séquences, notamment les séquences de spectacle, où il donne vraiment de lui, il donne de son corps, il est presque transcendé. C'est des scènes qui, puisqu'on parle de scènes un peu marquantes, qui m'ont vraiment marqué. La bande-son des Sparks, qui est incroyable. La mise en scène, l'atmosphère, tout ça en font un très très bon film. Mais je l'ai surtout choisi parce que moi, il m'est resté en tête pendant 2 semaines après l'avoir vu. Parce que c'est un tel ovni, c'est un genre de conte merveilleux et musical un peu déroutant. Moi, ça m'a vraiment dérouté dans les repères que j'avais. Je savais pas trop à quoi m'attendre en le voyant. Je savais toujours pas vraiment ce que j'avais vu une fois que je l'avais vu.
C'est... Ça, tout le monde dit ça. Et ouais. Nous-mêmes, en sortant de la séance, c'est exactement ce qu'on s'est dit. On était lessivés un peu,
ouais.
Mais dans le bon sens. Content d'avoir passé cette épreuve, en quelque sorte. Mais on ne savait pas vraiment quoi en penser, ce qui est souvent bon signe.
Ouais, exactement. Et c'est ce que j'attends, moi, parfois, d'une expérience au cinéma. Et c'est pour ça que je mettrais Annette comme mon top 1 ou mon film marquant de cette année.
Oui, je comprends complètement. Alors, je suis pas vraiment d'accord avec Lucas, parce que pour le coup, moi, j'avais un avis très tranché sur Annette qui était plutôt négatif. Mais pour le coup, en fait, c'est assez intéressant parce que pour préparer l'émission, moi, je suis très nulle en top. J'ai vraiment du mal à mettre en avant des films que j'ai vus parce que je trouve qu'à chaque fois, une expérience est différente. Et des fois, il y a des films qui sont bien, mais j'étais pas dans l'humeur ou j'ai pas apprécié le moment. Par exemple, Illusion perdue, je pense que je suis passée un peu à côté pour ces raisons-là. Mais en fait, je fais quelque chose, c'est qu'à chaque fois que je vais dans le ciné, je récupère le ticket et je le mets dans une boîte. Et en fait, pour préparer l'émission, en fait, j'ai re-regardé en essayant d'être un peu plus chronologique tout ce que j'avais regardé. Et effectivement, il y a 2 films, peut-être 3, mais plutôt vraiment 2 films qui ressortent vraiment. C'est donc, vous en avez parlé, c'est Onoda. Et vraiment, moi, ça a été une vraie claque. J'ai trouvé que c'était esthétiquement vraiment merveilleux et très, très bien réalisé. L'histoire m'a intéressé de base. La façon dont c'est traité m'a énormément plu, et en fait je pense que c'est vraiment un des films que j'ai vraiment aimé. Et plus récemment, le film pour lequel, où en fait j'étais dans une grande période où tous les films me satisfaisaient qu'à moitié, comme Illusion perdue ou des choses comme ça, et on en reparlera, mais c'est Compartiment numéro 6, où en y allant en fait un dimanche après-midi, sans vraiment en attendre, sans ne serait-ce que se connaître l'histoire, j'ai été bluffée en fait par la qualité de la réalisation, par la qualité de l'histoire, et on en reparlera plus tard, mais par la qualité des scènes et de certaines scènes du jeu. Et en fait, je pense que c'est quand même mon film préféré avec Onoda dans cette année. Et peut-être que c'est aussi parce que c'est celui que j'ai vu, on va dire, plus récemment qu'Onoda, donc du coup, le souvenir est encore plus fort. Mais vraiment, ça m'a énormément marqué à une période de cinéma où je trouve que finalement, cette année, elle est assez faible, en tout cas, dans les gros coups de cœur. J'ai vu beaucoup de films. Ça a été un renouveau sur. Je suis retournée au cinéma après 2 ans où en fait on allait au cinéma par intermittence. Et là, genre, j'ai vraiment refait une poussée. Mais pour autant, je trouve que ça reste un peu trop. Il y a des surprises, mais il n'y a pas d'énormes coups de cœur, on va dire.
Bah justement, tu parles de surprises. T'en y sont toutes trouvées. Parce que j'ai fait une catégorie qui s'appelle Belle Surprise, où j'ai rangé Compartiment numéro 6, qui est un film que je n'attendais pas du tout. J'ai vu à Cannes un peu par hasard. Et qui est un film finlandais, mais qui arrive à créer un univers qui est assez rare, en fait, dans les films cette année. Il y a eu beaucoup de films très bien, mais qui soit n'arrivaient pas non plus à créer un univers excellent, soit se cantonnaient dans un univers dont on avait déjà l'habitude. Je pense par exemple au film de Wes Anderson, qui est assez beau, mais qui ennuie un peu parce que c'est du Wes Anderson qui fait du Wes Anderson. Et au final, il se renouvelle pas, il s'enferme dans un style on a l'impression qu'il s'amuse même plus trop, en fait, à faire son film. Donc, est-ce que vous avez, vous, d'autres belles surprises que vous avez découvertes cette année?
Moi, j'en ai une très belle, c'est Bonne Mère, de Afsia Herzi. C'est un film que j'ai vu un peu par hasard, je pense que l'expérience aussi a joué, j'étais bien à ce moment-là, je suis rentré dans le cinéma alors que je comptais pas y aller, j'ai vu ce film à l'affiche, et je suis rentré. Du coup, ça a été vraiment une belle surprise parce que je n'avais pas d'attente. Donc, ça a été une belle découverte. C'est un film, du coup, sur la charge mentale d'une mère de famille dans un quartier défavorisé de Marseille. Donc, à ce titre, je pense qu'il aurait pu s'appeler « La gloire de ma mère ». C'est un film naturaliste, mais qui n'en fait pas trop, qui m'a semblé toujours très juste. Il m'a fait ressentir plusieurs sentiments, donc j'ai trouvé que l'empathie était totalement réussie. Je me suis attaché à la vie de cette famille, à la vie de cette femme. Je l'ai aussi trouvé réussi, ce film, dans l'exploration des lieux, que ce soit des appartements très étroits, le parloir aussi, parce qu'elle va rendre visite à un de ses fils qui est en prison, donc un endroit très étroit aussi, son lieu de travail, pareil, elle est très confinée dans son lieu de travail. Et à l'inverse, des scènes où on prend une vraie, et elle aussi prend une vraie bouffée d'air, donc comme le spectateur, où elle monte tout en haut de Notre-Dame la nuit pour souffler et se délester un peu de toute la charge qu'elle prend sur elle. Donc j'ai trouvé ça très beau comme film, très touchant, j'ai passé un très bon moment. Et c'est une belle découverte aussi dans le sens où Afshia Herzi, on la connaît comme actrice dans Mektoub My Love, dans La Graine et le Mulet, ou dans La Polonide aussi, je sais que t'aimes bien La Polonide, Adeline. Et c'est que le deuxième long métrage qu'elle réalise, donc c'était en compétition dans Un Certain Regard au Festival de Cannes, et donc je pense qu'il va falloir continuer à observer ce qu'elle va faire, les films qu'elle va réaliser. Et belle surprise aussi... dans le rôle de Nora, la mère, l'actrice, Halima Benhamed, c'est son tout premier film. Je sais même pas si elle en refera après. Et tout en pudeur, tout en retenue, et en regard un peu songeur, j'ai trouvé qu'elle sublimait vraiment le film, alors que c'est son premier. Et donc là aussi, ça a été une belle découverte d'une actrice.
Oui, je suis d'accord, c'est un des personnages les plus touchants, je trouve, de cette année. Et moi, j'étais dans la salle à Un Certain Regard, et donc elle était là, et c'était assez émouvant de la voir fondre en larmes à la fin de la séance, parce que tout le monde l'applaudissait et avait compris qu'ils avaient vu un sacré personnage. Tu dis que c'est un naturalisme qui n'en fait pas trop, mais au contraire, je trouve que c'est un naturalisme ultra poussé. Je trouve même qu'elle se place évidemment en digne héritière de Tonton Kechiche. Et elle a bien raison.
Moi, je la trouve un peu plus mesure. Kechiche, on en a longuement parlé dans une émission.
Ça dépend des séquences, mais je pense à ces scènes de dialogue où tout le monde parle en même temps et on comprend rien. Ça s'étire sur 5 minutes et je trouve ça super. Mais ça, je crois pas l'avoir vu chez Kechiche. Et c'est en sens ça que je dis que parfois, par saccade, elle peut même aller plus loin. Et oui, je suis d'accord, moi, c'est son deuxième film, après Tu mérites un amour, qui était déjà très sympathique. Donc j'ai hâte de voir la suite des choses.
Et toi, Lucas, une belle découverte de l'année?
Là, je regarde mes notes et je vois que j'ai 5 découvertes et qu'il n'y a que du français. Donc belle année pour nos jeunes français. Le premier, c'est Gagarine, film... de Fanny Liattard et Jérémy Trouille, j'espère que je prononce bien, qui déjà, bon, visuellement est assez impressionnant, c'est poétique en fait, c'est une esthétique poétique qui va au fond de sa métaphore sur l'espace en fait, puisque ça raconte l'histoire de cette banlieue, je sais plus où c'est d'ailleurs, ça doit être banlieue parisienne.
C'est dans le 91, c'est à Ivry-sur-Seine, je crois.
C'est ça, donc qui va être détruite, et donc ce jeune homme qui habite depuis tout petit, qui ne le veut pas, mais qui va s'enfermer dans une illusion, dans un rêve, pour défendre, pour empêcher cette destruction. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais je crois que généralement ça a beaucoup plu. Je crois que c'est un premier film en plus.
Ouais, on l'avait vu ensemble et qu'on était sortis de la séance. On était quand même, quelle découverte. Je ne m'attendais pas à avoir un film aussi bien. C'est pas un film parfait.
Non.
Mais pour un premier film, c'est impressionnant de maîtrise. Et oui, il y a tout ce côté poétique et souvent un terme un peu galvaudé. Parfois, on peut vouloir faire poétique au cinéma. Et là, c'est d'un naturel incroyable. Il y a des scènes dans cet immeuble qui se détruisent tout en douceur, tout très bien éclairé. Et surtout, des films sur la banlieue, c'est un sujet qui est quand même omniprésent au cinéma. Et là, ça arrive à dire quelque chose de supplémentaire, quelque chose d'autre. Donc c'est un film que je recommande tout à fait. Toi, Adeline, est-ce qu'il y aurait un petit film de Nicolas Cage, peut-être, parmi les belles découvertes de l'année?
C'est vrai que tout à l'heure, c'est rigolo, parce que tout à l'heure, j'ai ressorti du coup le ticket, et je me suis dit, waouh, Pig, énormément, vraiment, j'ai vraiment aimé, mais je pense que j'ai pas spécialement envie d'en parler, à part de dire, allez-y, parce que je trouve que c'est vraiment... divulgacher complètement de dire quoi que ce soit sur ce film, parce que en fait, juste pour vous donner l'anecdote, j'ai un collègue à moi qui est allé avant moi et je lui dis ah c'est un Taken, c'est vraiment un
John
Taken,
un
John Wick avec un cochon, etc. Et juste je te remercie Madian d'ailleurs si tu nous écoutes, cette personne me dit ah oui carrément. Et en fait c'est pas du tout ça, mais genre, vraiment de loin ce n'est pas ça du tout. Et je le remercie vraiment de juste m'avoir dit peut-être si tu t'attends à ça, ça sera pas vraiment ça, mais de rien m'avoir dit d'autre. Et donc je ne dirai rien d'autre à part que ce n'est pas un John Wick avec un cochon. Désolée si vous attendez ça à ça, mais en même temps allez-y parce que c'est vraiment chouette. Enfin en tout cas allez-y. Plus allez le regarder sur là où vous le trouverez. Je pense qu'il a pas fait long feu au cinéma, non, en tout cas parce que c'était une petite sortie, mais c'était vraiment pas mal. Mais moi j'allais plus rejoindre Lucas sur les sorties françaises pour le coup, et un film que je suis pas sûre vous y êtes allé puisque c'est peut-être un peu loin, mais Aline, le film de Valérie Lemercier sur Céline Dion, qui a été une énorme surprise pour moi puisque j'y suis allée pour faire plaisir à ma colocataire qui est une grande fan de Céline, et en fait je m'attendais pas du tout. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit que, avant d'y aller, que c'était vraiment quelque chose de très très bien. Et en fait, d'un point de vue de la réalisation, en fait, c'est quelque chose de très très fort. Et je pense que Valérie Lemercier, elle a fait quelque chose d'intelligent. C'est-à-dire qu'elle s'est pas, elle a pas voulu faire une biographie de quelqu'un qui, forcément, elle aurait été dépassée en fait par cette biographie, parce qu'en fait, c'est une personnalité trop forte, une personnalité trop grande. Et en fait, elle a instauré dès le début plein de complexes et de ratés, c'est-à-dire qu'en fait elle décide de jouer Céline Dion à tous les âges, c'est-à-dire que première scène, une Valérie Lemercier de 6 ans en réalité virtuelle avec le visage de Valérie Lemercier sur un corps d'une enfant de 6 ans, tu te dis ça ne va pas marcher en fait, on frôle le délire, et c'est grâce à ce délire-là que le film peut prendre une tournure sérieuse sans pour autant en fait vouloir avoir une dimension sérieuse sur la vie de Céline Dion. Et en fait je trouve que c'est là que c'est fort, en fait c'est parce que à la fin on a vu un film très sérieux, un biopic très très réussi avec des images d'archives, avec vraiment un travail énorme, qui pour autant a cassé le jeu dès le début en disant jamais je prendrai la prétention de raconter la vie de Céline Dion. Et pour quelqu'un qui n'aime pas du tout Céline Dion, qui est pas du tout fan, qui a pas grandi avec ça, j'ai été très touchée par ce film et par la qualité de la réalisation. Donc vraiment je vous conseille de le voir, même si peut-être c'est encore en salle. Et vraiment, c'était une très bonne surprise. Et en fait, et enfin, dernière surprise, c'était Teddy.
Je l'avais aussi.
Je sais pas si, ouais. Mais du coup, j'ai trouvé que c'était un très bon film français qui est.
Enfin, film sur un loup-garou, c'est ça ?
Ouais. Une sorte de petit côté Bruno Dumont avec on va dans les terres, mais avec un loup-garou, un film de loup-garou, une comédie un peu noire.
Et avec l'acteur de Petit Quinquin d'ailleurs, non ?
Oui. Non, c'est pas lui.
Ah, d'accord. Alors,
c'est un autre acteur dont j'ai oublié le nom, et pourtant on va le voir, on le voit déjà énormément. Je retrouverai tout à l'heure, je vous redirai le nom.
Peut-être pour finir sur la belle surprise, je pense que tu avais un film qu'on a vu il y a pas longtemps, qui est L'événement de Audrey Diwan, qui est dans un film sur l'avortement en France dans les années 50, et qui est un sujet donc très fort, qui est un film assez prenant et assez stressant. C'est tout le long, on ne décroche pas du film. Alors c'est marrant parce que c'est un film qui a une mise en scène très... tu parlais de ces deux réalisateurs belges.
Des Dardennes. Ça fait un peu à la Rosetta, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas... on ne voit en fait que l'actrice principale pendant une heure et demie de film. On ne la quitte pas, ça peut un peu donner l'envie de vomir parfois, tellement on est vraiment centré sur elle. Mais ça correspond au propos du film qui est que... Et c'est d'ailleurs un des points forts, je trouve, du film, c'est que... Il n'y a aucune scène parallèle, c'est-à-dire qu'on ne parle vraiment que de ça, que de son angoisse de l'avortement, du fait d'avoir un bébé en elle et ce qui pourrait nuire à ses études, parce qu'elle veut évidemment aller à la fac, mais si elle a un bébé, elle ne pourra pas. Et on ne parle vraiment que de ça, ça ne change jamais, et donc on partage, je trouve, son angoisse, et c'est, je crois, la grosse réussite du film.
Je pense qu'on a peut-être fait le tour des belles découvertes, on peut
peut-être
parler des belles scènes.
Sur l'animation. Parce que l'animation française.
Je pense qu'on pourra y revenir.
Ah, tu
veux juste
okay.
aussi.
Et je veux juste dire, pour revenir sur ce que disait Lucas, je crois que c'est Jérémy Bajon, le nom de l'acteur de Teddy, mais j'ai un petit doute.
Chez Bajon,
ouais. Bajon, mais Jérémy, j'ai un petit doute.
Anthony Bajon, je crois que c'est.
Ah, voilà.
Et pour finir avec les belles découvertes, on peut aussi parler des mauvaises découvertes et donc des flops de l'année. Est-ce que, vite fait, peut-être en quelques titres, sans reprendre le temps de s'attarder dessus, parce qu'on est déjà. On est déjà à une demi-heure d'émission pratiquement. Est-ce que vous, il y a des films qui vous ont particulièrement déçu cette année ?
Moi, j'ai lancé la marche pour dire que, ok, il y a eu une très belle adaptation de Balzac avec Les Illusions perdues, mais il y en a eu une très mauvaise aussi, qui a été Eugénie Grandet, et qui pour moi a été, je pense, la pire expérience de cinéma. Ma coloc en est témoin, bisous Laura. Et après, on en a fait une tous les deux, c'était...
Les choses humaines de
Les choses humaines, qui peut-être n'est pas autant un flop que Eugénie Grandet, dans le sens où on peut débattre sur le film. Je l'ai personnellement détesté, mais je pense que c'est pas pour autant un flop. Voilà.
Toi, Louis, est-ce que tu as eu des flops cette année?
J'en ai eu quelques-uns, alors que pourtant je suis plutôt bon public, mais c'est parce que c'est des réalisateurs pour lesquels on peut avoir des attentes. Bah déjà, le film de Quentin Dupieux, Mandibule, je vais pas revenir dessus parce qu'on a déjà un petit peu parlé, mais ça a été une petite déception. Et The French Dispatch, t'as commencé à en parler tout à l'heure, de Wes Anderson. Alors si on aime Wes Anderson, on passe plutôt un bon moment parce qu'on retrouve ce qui fait toute sa force, les décors, un casting exceptionnel, une mise en scène très particulière, très à lui, mais c'est vraiment loin d'être son meilleur. C'est séquencé par chapitres et j'ai trouvé que les chapitres étaient très inégaux. En plus, ça manquait d'un fil conducteur, j'ai trouvé, entre ces chapitres. La mise en scène, qui est parfois la force de Wes Anderson, là je la trouve peut-être un petit peu grossière par moment. Après, il s'est fait plaisir, on passe quand même un bon moment. Il y a une très bonne Léa Seydoux, on reviendra peut-être sur l'année de Léa Seydoux tout à l'heure, mais globalement, c'est ma déception de l'année.
C'est un film qu'on a vu à Cannes, et j'en profite parce que j'ai eu de grandes déceptions aussi cette année, que j'ai vu notamment à Cannes. Le troisième OSS 117 par Nicolas Bedos, mais on en a assez parlé dans l'émission, donc je vous renvoie à cette émission. Il y a eu Titane aussi, qui a eu la Palme d'Or. En soi, je n'attendais pas la Palme d'Or, mais j'étais déçu par ce film. Il y avait aussi peut-être un des pires films vus cette année. Le deuxième pire film, allez, je parlais dans les blockbusters du pire film de l'année, mais Flag Day de Sean Penn, que j'ai vu avec Lucas, et on se souvient de cette séance qui était
particulière.
Lucas, toi, des déceptions?
Bah, tu parlais de... Bah, déjà, moi, je divise mes flops en deux, puisque il y a des déceptions, qu'en fait, ça reste des bons films, mais c'est juste, j'étais très déçu par rapport aux attentes que j'en avais, et là, les deux, c'est Nanni Moretti et Pedro Almodovar, avec Trepiani et Madres Paralelas, qui sont deux films corrects, mais en fait, j'aime tellement ces deux mecs-là, que c'est en fait, et les deux ont le même défaut, c'est que c'est beaucoup moins touchant que d'habitude. Leurs personnages sont beaucoup moins ancrés dans une réalité qui me ferait ressentir de l'émotion. Et la deuxième partie de mes flops, c'est ceux que j'ai vraiment pas aimé. Alors tu parlais de Titan, étrangement je serais un peu moins dur maintenant avec le film. Je trouve il vieillit un peu mieux. Bon, je le laisse quand même dans les flops, mais surtout toute la deuxième partie avec Vincent Lindon, en fait, qui reste un peu et que je trouve intéressante, mais la première partie est pour moi inutile, enfin désagréable, vraiment désagréable. Et sinon, un flop, alors là je vous ai déniché une pépite de ce que l'âme humaine peut faire de pire, et j'aime pas être méchant comme ça, mais franchement je ne vois pas comment on peut sortir ça. Tu parlais des productions Amazon tout à l'heure, et c'est un film qui est sorti début décembre, qui est Haters.
Laisse-moi deviner, ouais, j'allais dire, voilà, le film de Kev Adams.
Ouais, bah c'est pas lui. Mais
t'as tenté l'expérience?
Ah, j'ai tenté, moi, quand faut y aller, je vais au
pas
front.
De rien.
Un vrai mousquetaire.
Je veux voir jusqu'où on peut aller, à quel niveau d'indécence et de foutage de gueule, franchement je vous le jure, je ne comprends même pas comment on peut écrire ça et se dire que ça va faire rire des gens. Et c'est Kev Adams, bon il réalise pas, hein, c'est l'acteur, mais bon oui, il joue très mal. Limite le meilleur acteur c'est Olivier Giroud, qui est notre champion du monde de foot, qui joue dedans et qui franchement brille par son intervention, en dehors de Franck Dubosc quand même, qui est l'éternel
magistral
scène d'anthologie. Et mais regardez-le quand même, parce que ça reste intéressant à étudier.
Mais je crois qu'il y a eu un très gros flop aussi, mais je pense que personne l'a vu ici, c'était Les Méchants.
Ah oui, de Mouloud Dufour. Ouais. J'ai envie de le voir pour tenter l'expérience.
Qui avait quand même le mérite, je trouve, d'avoir deux, trois bonnes idées par moment, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça terrible non plus, quoi.
Bah écoute, parlons de quelque chose de terrible. Est-ce que tu peux me parler de ta scène préférée de l'année, Lucas, pour lancer ensuite une musique, car tout est très bien construit dans cette émission.
Bien sûr, tu parlais, Louis, tout à l'heure, d'à l'abordage, et il y a une scène finale. On suit deux personnages qui se rencontrent et qui tombent amoureux, et dans un centre de vacances, et évidemment il y a le karaoké à la fin de cette semaine de vacances, karaoké où passe la musique du génial Christophe, dont je reparlerai tout à l'heure, d'ailleurs j'aime beaucoup Christophe maintenant, et donc cette musique c'est Aline, et une scène de karaoké que je trouve magnifique.
Bah écoute, une petite dédicace à Yacine qui écoute sûrement cette émission, et on peut s'écouter Aline de Christophe.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine.
Et vous écoutez toujours la séance du dimanche sur Radio Campus Paris. On a parlé de nos films préférés de l'année, des belles découvertes, des scènes marquantes et des flops. Et Louis, j'ai l'impression que tu veux parler d'un genre particulier qui nous est cher à la séance du dimanche.
Oui, nous est très cher. Et ouais, la transition un peu trouvée avec les flops, c'est l'année, cette année, les documentaires, moi, m'ont pas spécialement touché. C'est une vraie déception, surtout par rapport à l'année dernière. Si on réécoute notre émission justement consacrée à l'année 2020, on s'était dit que c'était une année prolifique pour les documentaires, qu'il y avait plein de beaux documentaires. Et cette année, je suis vraiment resté sur ma faim. Heureusement qu'on a été contacté par la SCAM pour faire cette émission en partenariat avec eux et qu'on a pu voir du coup Il n'y aura plus de nuit d'Eléonore Weber qui est sorti cette année et qui est peut-être du coup mon documentaire préféré de 2021. Parce qu'à part ça, je me suis pas mis beaucoup de documentaires vraiment sous la dent. J'étais très déçu à ce niveau-là. Il y a un autre genre, Lucas voulait en parler aussi un petit peu, donc on pourra revenir dessus. C'est le cinéma d'animation qui m'a un peu déçu cette année. Mais on va pouvoir détailler peut-être un petit peu sur les documentaires. Est-ce que vous, il y a des documentaires qui vous ont voilà, sauté à l'esprit? Ou est-ce que vous aussi, c'est une déception cette année?
Alors moi, c'est deux documentaires, mais ce sont des séries documentaires. Et c'est assez spécial parce qu'il y a eu beaucoup...
C'est ce que j'allais dire, c'était plutôt en termes de séries.
Plutôt en termes de séries, c'est ça. Il y a eu beaucoup de choses sur les plateformes.
Oui.
Alors les plateformes, cette année, ont eu un gros coup de cœur, c'est de parler de stars. Alors il y a eu énormément de documentaires et séries documentaires sur des stars. Il y a eu vraiment ça a un champ de possibilités énorme. Ça va de Angèle à Nabila, en passant par Bob Burnham. Mais j'ai regardé le documentaire sur Aurel San, qui s'appelle Montre jamais ça à personne. Aurel San, qui n'est pas un artiste que je m'en fous un peu, quoi. Mais pourtant, le documentaire est incroyable et je conseille à tout le monde, même ceux qui n'aiment pas forcément la musique d'Aurel San, qui en gros, c'est son frère, donc qui s'appelle Cotentin, si je ne m'abuse. Corentin Cotentin, qui s'appelle.
Clément Cotentin.
Corentin Cotentin, ça serait un
et
peu
non,
bizarre.
Et non, ouais, Clément Cotentin, qui est le frère de Aurélien Cotentin.
Aurélien Cotentin, merci. Et donc, ce documentaire qui dure, je crois, 5 ou 6 heures, qui est donc en 6 parties, revient sur le parcours d'Aurel San, mais à travers des images d'archives qui ont été filmées par son frère. Mais à partir du moment où il n'était personne, où il était juste seul dans sa chambre avec ses potes,
c'est fou. Il filmait, donc il avait une admiration pour son grand frère quand même. Il le filmait avec ses potes en train de prendre leur petit déjeuner alors qu'il n'était personne. Et d'ailleurs, il y a plein de moments où on voit ses potes lui dire mais arrête de nous filmer, qu'est-ce que tu fous? Et il fait mais je garde, on sait jamais. Et donc là, gros respect quand même pour cette mentalité. Ça sent qu'il a ça dans le sang, quoi.
Et deuxième.
Attends, parce que je comptais peut-être en parler du coup dans les séries, moi, de l'année, mais puisqu'on parle de ce documentaire, justement, ce que je trouve
plaisir.
Qui fait sa force, c'est un peu le fait maison, justement, c'est que c'est. Ça réside en fait la force dans le fait que les images soient inédites et que ce soit des archives, des images amateurs, des vidéos amateurs. Et le montage, les sublime, je trouve que la structure est plutôt bonne, tu l'as dit, c'est en 5 ou 6 épisodes et je trouve la structure plutôt bonne. Et ben c'est beau en fait de voir des vidéos amateurs comme ça bien montées et
ouais.
C'est un beau documentaire.
Puis il y a juste aussi ce personnage d'Aurel San qui en fait on se rend compte que c'est pas du tout un rôle, ce mec un peu désabusé de tension et il te lâche des répliques des fois, enfin c'est même un bon scénariste pourrait pas les écrire quoi, il est assez enfin il brille comme ça et limite il se suffit à lui-même donc
Et c'est disponible sur Amazon Prime donc. Et il y a une autre série alors qu'elle là qui est passée totalement inaperçue, sortie le 8 janvier sur Netflix. Est-ce que vous avez entendu parler de Pretend It's a City? Et pourtant, c'est un documentaire en 6 parties de Martin Scorsese, qui a réalisé tous les épisodes. Et c'est dispo sur Netflix, donc pourtant donc ça doit être un fond de catalogue. Et c'est des conversations passionnantes avec une amie à lui qui s'appelle Fran Lebowitz, qui est new-yorkaise, qui fait des conférences et qui écrit des livres, et qui est quelqu'un, qui est un personnage scorsésien, qui ne fait que parler, qui parle un débit très 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 rapidement, il parle tout le temps, et qui parle évidemment de New York, parce que Scorsese, on sait, aime New York. Et donc c'est un documentaire en fait sur cette personne, Fran Lebowitz, mais aussi sur New York. Ça explore plein de lieux différents de la ville et ça se regarde très très bien. C'est en 8 parties de 30 minutes. Et surtout il y a même Spike Lee qui apparaît des fois dans le documentaire, qui fait des scènes, qui fait du Spike Lee. Et c'est un documentaire, je pense, qui est parfait pour des vacances. Un petit épisode d'une demi-heure de temps en temps. Et c'est, ça fait très Noël. Toi, Denis, est-ce qu'il y a des documentaires ou des séries documentaires qui t'ont marqué cette année?
Bah, c'est assez enfin, je suis assez partagée parce que quand du coup Louis a proposé qu'on parle des documentaires, je me suis rendu compte que bah à part la SCAM, j'avais pas forcément regardé des documentaires et je me suis posé la question justement des plateformes. Et c'est rigolo que vous parliez de grosses séries de documentaires ou de gros documentaires qui soient sortis pendant enfin sur les plateformes, parce qu'en fait effectivement il y a l'affaire du siècle, etc. Il y a eu des gros documentaires Netflix qui ont été vraiment vus et j'ai l'impression que même parmi mes amis le genre documentaire s'est vraiment développé auprès de ça et en fait qui a eu vraiment un déclic en fait le format de l'enquête, des choses comme ça, en fait ça plaît beaucoup, mais à contrario en fait j'ai l'impression que les documentaires au cinéma ont été catastrophiques en fait, et en fait et souvent sur le même thème. J'ai vu trois documentaires dont un, j'ai oublié le nom, mais c'était vraiment affreux. C'était sur des jeunes qui s'engageaient pour la planète. Et une fille qui, après, a été dans une pub au cinéma pour Levi's pendant tout le temps, ça m'a vraiment trop saoulée, qui allait voir différentes personnes qui œuvraient pour la planète à travers le monde.
Est-ce que c'est Animal de
non,
Cyril
Lion? Après, il y a eu Animal de Cyril Lion qui m'a aussi un peu énervée. Après, il y a eu Greta. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une obsession un peu monomaniaque sur des films sur l'écologie, mais qui n'étaient même pas beaux, en fait. Qui avait quelque chose de très surfait et de très commercial. Et en fait, j'ai trouvé que l'influence des plateformes avait un peu joué sur ça, c'est-à-dire que tu avais vraiment l'impression, quand tu arrivais par exemple à Châtelet-Léal, dans ce grand hall avec les affiches, et qu'il y avait des affiches de documentaires, finalement en fait c'était des documentaires qui étaient un peu de passade, et où je me suis demandé qui va voir ces films en fait, et qui a une envie et une appétence pour voir des choses qui sont finalement assez plates en fait. Enfin, y a peu d'engagement et ça remue pas forcément, et j'ai trouvé que ça desservait vraiment le genre documentaire. Ça m'a vraiment vraiment énervé, alors qu'à contrario en fait j'ai trouvé que beaucoup de plateformes, notamment Netflix, avaient fait des efforts de fou sur les documentaires, et presque en fait on dit souvent que Netflix a un peu tué la cinéphilie, etc. Mais je trouve qu'en fait Netflix, ils ont quand même contribué à une chose, c'est remettre au goût du jour le genre documentaire, et notamment le genre de l'enquête. Et par exemple rien que Le Petit Grégory, finalement, en fait, ça a un peu bousculé les codes de la consommation du documentaire, je pense.
Un autre genre qui est peut-être un peu passé inaperçu, qui n'est pas cité comme des longs métrages classiques, reprenant ces longs métrages classiques, c'est l'animation.
Bah oui, on a commencé à en parler du coup un petit peu avec Lucas, mais on peut revenir encore un petit peu plus dessus. J'ai été très déçu, moi, cette année, des longs métrages d'animation. On a eu Lucas, notamment, chez Disney, enfin, fait par Disney-Pixar, mais qui est pour moi des années-lumière de ce que Pixar a fait de mieux, ou même a fait de récent, comme le poétique Vice-Versa, ou le plus mélancolique Soul. Y a pas de concept fort qui se dégage de film, en tout cas j'ai trouvé. Et là où certains voient des hommages ou des références à certains films produits par le studio Ghibli, comme Kiki la petite sorcière ou Ponyo, moi j'y ai juste vu une pâle inspiration, donc franchement j'ai été très déçu. Et j'ai également vu Encanto, l'histoire d'une famille colombienne au pouvoir magique, chez Disney là aussi. Et pour moi, c'était vraiment du sous-coco. Enfin, j'ai pas trouvé mieux à dire sur ce film. Toi, Lucas, peut-être t'avais deux, trois réserves aussi sur le cinéma d'animation cette année.
Non, moi j'ai un film en tout cas d'animation français qui m'a beaucoup plu, qui est Le Sommet des Dieux de Patrick Imbert, que je sais pas si tu l'as vu, que du coup je t'encourage à aller voir, et qui va peut-être te réconcilier avec l'animation cette année, surtout l'animation française, et j'en reparlerai tout à l'heure dans les séries, qui brille une nouvelle fois aux yeux du monde. C'est une adaptation d'un manga sur un très connu d'ailleurs, mais
Jiro Taniguchi.
Voilà, c'est ça, qui est mort juste avant d'ailleurs la sortie du film, mais sur un alpiniste, enfin deux alpinistes qui vont donc grimper une montagne, un mont très dangereux. Et on parlait le mois dernier de la thématique avec Herzog, de la thématique de l'homme face à la nature, et c'est vrai que ça rappelle aussi ça. Et donc c'est visuellement c'est splendide, et ça arrive vraiment à rendre compte du vertige que peuvent éprouver ces hommes. Donc très bonne surprise que je t'encourage à aller voir.
Pour me réconcilier du coup avec l'animation 2021.
C'est un film qui donne le vertige et qui donne très froid aussi.
Ça donne très froid.
Je l'ai vu au cinéma et c'était peut-être, ça aurait pu faire partie de mes films préférés de l'année, je pense. Est-ce que Adeline, tu as des films d'animation
Justement, on m'a parlé du Sommet des Dieux, c'est vrai qu'on m'a vraiment conseillé d'y aller, et j'avais envie d'y aller, mais finalement je l'ai raté, parce que, encore une fois, dans la distribution des films, si on n'est pas un Pixar ou un Disney, c'est assez difficile de trouver sa place, et du coup j'en ai pas vu, et je suis assez d'accord, en fait, on en parlera après un peu plus tard sur les à côté du cinéma, mais même si je me suis un peu plus plongée dans l'animation d'un côté plus personnel et dans ma consommation, c'est vrai qu'en sortie, en récent, je me suis pas du tout intéressée, et en même temps j'ai eu un peu l'impression que pas grand chose me donnait envie, et que presque j'avais plus envie d'aller voir des films d'animation un peu plus vieux, notamment Les Trois Brigands, que j'adore, que j'ai revu la semaine dernière au cinéma et qui était vraiment une bonne expérience. Et c'est vrai que oui, non, c'est plus... ça a été une année assez, assez molle sur l'animation, j'ai trouvé, en tout cas. Et parce que aussi, peut-être, le champ de... Enfin, le fait qu'on est un peu contraint aussi des sorties. En fait, ils ont dû sortir énormément de films et que souvent, les films d'animation passent à la trappe et ont pas forcément un gros... ils rayonnent peu, en fait, sur les plateformes, donc c'est difficile après d'aller les voir et de les trouver. Et je pense que Le Sommet des Dieux a été un peu...
Et peut-être que, comme pour le genre documentaire... On le retrouve peut-être aujourd'hui beaucoup plus sur les plateformes qu'au cinéma. Et quand c'est au cinéma, c'est peut-être, à part donc pour des grands films d'animation, à des jours et des horaires peut-être qui nous aussi nous correspondent moins. C'est peut-être aussi pour ça. Mais voilà, globalement, déception pour ma part.
Et maintenant, on va continuer de parler de l'année 2021, donc, tout le long de cette émission. Mais cette fois-ci, à travers un petit jeu, après le traditionnel jingle.
Nous allons jouer à un jeu.
Not a chance.
On va arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre.
Oh putain, c'est un Trivial Pursuit. 1, 2, 3.
Je vous propose un autre jeu plutôt. Vous connaissez un jeu auquel je gagne toujours.
Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu.
Je peux perdre, mais je gagne toujours.
But don't play with me, cause you're playing with fire.
Et donc le jeu cette fois-ci a été préparé par Victor, mais sera présenté par une première intervenante dans notre émission. Bonsoir Christine.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors de quoi, si j'ai bien compris, parce qu'évidemment je n'ai pas lu le jeu car il y a écrit les réponses dessus, ça va être un jeu en rapport avec l'année, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Il s'agit de différents synopsis et c'est l'édition 2021, le synopsis.
D'accord, c'est un titre évidemment donné par notre cher Victor. Eh bien, écoute, on va peut-être passer au premier synopsis. Il va falloir, c'est des synopsis, de ce que j'ai compris, de ce que m'a expliqué Victor, c'est des synopsis un peu mal écrits, un peu tordus. Il va falloir qu'on devine le film de 2021 dont il parle.
C'est un mec, il y a des raptous qui arrivent chez lui, et il se dit, je vais défendre ma famille, quoi, mais il n'y arrive pas, en fait, et le mec devient ma boule. Il veut récupérer sa femme et son fils, qui se sont fait embarquer par le méchant, mais il veut être sûr que le méchant s'en souvienne.
C'est très, très cryptique. Est-ce que vous avez une idée?
Des raptous?
Des raptous, je pense à dire des méchants, je ne sais pas, des voyous, j'imagine. Je crois qu'il y a des indices pour nous aider au fur et à mesure.
Alors, il y a un premier indice, il y a Nacheler. Et un deuxième indice, personne.
Mister Nobody, film d'action avec l'acteur de l'avocat de Breaking Bad qui est sorti en mai dernier. Et un rap tout. Donc on apprend des mots grâce à Victor. On le remercie. Est-ce qu'on peut-être passer au second synopsis?
Alors le second synopsis, c'est une famille où genre il y a la fille, elle aime bien la technologie, mais la famille, elle, n'aime pas trop la technologie. Et du coup, ils partent en road trip pour devenir des Amish. Sauf que en fait, la technologie sur Terre, elle devient méchante. Et les humains, ils sont un peu piégés, mais en fait, ça va, parce qu'ils arrivent à libérer la Terre des robots.
Louis, tu avais une idée?
Non, au début, mais plus après.
Alors, il y a deux indices. Un premier indice, animation.
Donc, un film d'animation avec des gens qui n'aiment pas la technologie.
Et le deuxième indice, Netflix.
Un film d'animation Netflix, je n'en ai aucune idée. Lucas, une idée?
C'est Arcane? Non.
Non.
Non, je ne l'ai pas.
Est-ce que Adeline, tu aurais une idée sur la technologie et un film Netflix?
Moi, j'aurais dit Arcane aussi, mais je n'ai même pas vu Arcane. Mais non, un film d'animation Netflix.
Non, je veux bien la réponse alors.
La réponse, c'est les Mitchells contre les machines.
Je crois que personne n'a vu ce film autour de la table, malheureusement. On va passer à un autre film, peut-être qu'on sera plus fort cette fois-ci.
Alors, c'est des gens qui sont genre une famille, et puis en fait, ils font des trucs de famille, mais genre vraiment doucement. Genre, ils aiment pas trop faire du bruit, donc du coup, ils vont dehors, dans la nature. Ouais. Puis ils continuent à pas trop faire de bruit, mais en fait, il y a des gens qui font du bruit, et ils sont pas super cool. Et puis, il y a aussi d'autres gens, mais eux, ils font pas de bruit du tout, eux aussi, ils sont quand même pas cool.
Lucas, ouais. Tu as la réponse.
Sans un bruit d'eux.
Oui, je pense que c'est ça, sans un bruit d'eux.
A Quiet Place.
Est-ce qu'il y a encore un ou deux synopsis à faire profiter?
Le dernier, c'est des mecs et des meufs qui sont habillés bizarrement et qui se battent parce que sinon c'est la merde. Et il y a un méchant qui est vraiment méchant et il veut tuer les mecs et les meufs qui sont gentils, mais il va pas réussir facilement parce que les mecs et les meufs, ils ont des pouvoirs et ils se battent tous ensemble contre le méchant et du coup ça va.
Donc ce n'est pas Zack Snyder Justice League?
Éternel, les Éternels.
Donc c'est les Éternels.
Non, non, Zack Snyder.
Toujours.
Ah.
Donc c'est la fin de ce jeu,
je crois. C'est la fin de ce jeu.
Merci beaucoup.
Eh ben, merci de ta participation.
Merci à vous.
Et puisqu'on parlait de Zack Snyder, des Éternels, etc., je crois qu'on va pouvoir parler des blockbusters. Mais juste avant, Lucas, tu avais un retour à nous faire sur les documentaires.
Ouais, on repasse par le documentaire. Désolé, je vais peut-être essayer moi de défendre cette année qui, je le concède, est beaucoup un peu plus creuse que l'année dernière, qui était vraiment nourrie en termes de documentaires, entre notamment avec ceux de Sébastien Lifshitz. Mais là, il y a un documentaire donc, qui a un parcours bizarre parce qu'il fait partie de ces films qui sont d'abord sur la plateforme d'Arte et qui après sortiront au cinéma comme à l'abordage. Et donc, ça sort peut-être en 2022, donc je triche peut-être un peu, mais c'est Nous, d'Alice Diop, donc, qui est cette réalisatrice qui fait beaucoup de films et de documentaires sur la thématique de la banlieue et qui là... adapte un livre assez librement, mais où en gros elle suit le parcours du RER B à Paris pour filmer des gens dans les banlieues, dans la banlieue parisienne, et ces banlieues au sens large parce qu'elle va quand même assez loin parfois. Et c'est juste ça, elle filme juste des gens, et c'est pas la banlieue. Donc tu parlais tout à l'heure des films de banlieue peut-être un peu clichés où on met l'accent sur la dureté. Non, là c'est la banlieue, voilà, très calme, comme 95% de la banlieue en fait. Ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu désordonné. Elle filme des gens, après elle va chercher des archives de sa famille. On sait pas trop où ça va, mais c'est pas si grave finalement. C'est juste, il y a de la beauté qui jaillit, une grand-mère qui pleure dans une église, un mec qui appelle sa mère qui est restée au Mali, et on sent qu'il est un peu gêné, et surtout une scène de chasse à cours. Alors je pense pas que Alice Diop soit favorable à la chasse à cours, mais il n'empêche que ces gens-là qui la pratiquent, ils existent, hein, ils ont une réalité. Et c'est les 20 dernières minutes, et je trouve que c'est du chef-d'œuvre en termes de mise en scène et de la manière dont elle filme ça. C'est assez remarquable. Donc si vous voulez voir de la beauté en fait et de l'émotion qui jaillit des petits gestes anodins des gens de la vie de tous les jours, c'est assez remarquable. Et j'ai un autre film documentaire Arte, encore une fois, qui est beaucoup plus classique, mais qui est un documentaire sur Maurice Pialat, qui s'appelle Sous le soleil de Pialat, très beau nom, et qui retrace voilà comme ça sa vie, et qui où on en apprend notamment que Pialat a fait déterrer sa propre mère pour le tournage de La Gueule ouverte, parce c'est un film qui raconte la mort d'une femme et surtout son fils qui assiste à la mort de sa mère. Et pour plus de réalisme, pour voir comment est un corps, il a fait déterrer le cadavre de sa propre mère. Et aussi, si vous voulez voir Gérard Depardieu, donc grand ami de Maurice Pialat, se mettre à pleurer, à fondre en larmes quand il évoque la mort de son ami, il y a une archive où, comme ça, il est face caméra, il fond en larmes et c'est absolument déchirant. Donc voilà, je tenais juste à parler de deux bons documentaires, en plus de La Panthère des Neiges, bien sûr. J'en parle chaque mois, qui était très bon aussi.
Bah écoute, merci. On va passer donc les documentaires, c'est toujours des films qui sont relativement petit budget, plus ou moins. Hein. Et là, on va passer dans une autre catégorie, un autre univers, qu'on va reparler des blockbusters. There's something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? There's a crusade coming. Come on, Bond, where the hell are you? James! Okay.
j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça.
Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ?
Bah, des fois que vous redeveniez roi.
Et donc il y a eu des blockbusters américains, aussi des blockbusters français dans ce petit medley. Et toi Adeline, de quoi vas-tu nous parler ?
Et alors c'est vrai que cette année a été assez riche en blockbusters, puisqu'ils étaient plutôt attendus on va dire, et notamment avec le Covid ils ont pas pu sortir, et donc du coup on a eu une avalanche de blockbusters, et comme on a entendu à la fin un blockbuster français qui a fait le meilleur nombre de sorties pour l'instant, c'est Kaamelott.
En même temps, il y a des gens qui vont le voir 300 fois. Donc.
Mais qui sera sûrement battu, selon les pronostics, par Létuche 4, qui s'apprête à être le plus gros blockbuster de l'année. Et on sait pourquoi.
Je suppose que tout le monde autour de la table a envie d'aller voir Létuche 4.
J'ai hâte. En tout cas, moi j'avais envie de vous parler d'un petit blockbuster, entre guillemets, c'est-à-dire un blockbuster qui est passé assez inaperçu et qui pourtant, à mon goût, a été plutôt bien reçu. C'était Shang-Chi, la légende des 10 anneaux.
Petit blockbuster du Marvel Studios quand même,
petit
à 200
blockbuster
millions.
Dans le sens où c'est pas une franchise, c'est une franchise qui se crée, donc c'est quand même un premier, c'est un super-héros qui fait partie de l'univers mais qui n'avait pas encore été introduit, et du coup qui est introduit d'une façon assez intelligente. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un New-Yorkais, je pense, ça se passe à New York au tout début, qui du coup a des origines, on le sous-entend, chinoises, et qui en fait est rappelé par ses devoirs, puisqu'on comprend que son père est un grand méchant de l'univers, et qui en fait possède 10 anneaux, et ils vont retourner en Chine avec sa sœur et sa meilleure amie, et c'est un assez beau contraste entre le passé un peu rêvé, et aussi vu d'un point de vue occidental de la Chine, ce que j'ai trouvé peut-être parfois un petit défaut, c'est-à-dire que la Chine est quand même représentée dans des atouts assez traditionnels, on va dire, mais en même temps avec une grande complexité, et j'ai trouvé assez intelligente. Y a pas, et ce que je pense que j'ai préféré dans le film, c'est que du coup le personnage principal a un sidekick qui ne sera jamais en fait son amoureuse, donc c'est son amie du coup femme, et en fait il y aura jamais de tension sexuelle ou de tension amoureuse dans tout le film, et j'ai trouvé ça assez agréable. C'est un film qu'on pourrait qualifier d'assez éveillé et pour autant assez classique, et j'ai trouvé que c'était bien fait, mais bon, ça a été quand même un peu noyé dans la multitude des blockbusters de l'univers Marvel, et donc on pourra parler du coup de Black Widow, des Éternels.
Non, on n'en parle pas.
Enfin, non, en tout cas, oui.
Black Widow, j'ai vu Black Widow, mais pas donné de sous à Disney pour ça, je ne dirai pas comment je l'ai vu, mais qui est un énième film qui n'a pas du tout grand intérêt. C'est toujours la même formule avec à la fin une forteresse qui tombe du ciel. On ne sait pas pourquoi, ils aiment bien les forteresses qui tombent du ciel chez Marvel, donc il y a une forteresse qui tombe du ciel avec des effets spéciaux assez moches, et des effets spéciaux partout, parce qu'il y a des scènes où elles sont juste dans un bar, je ne sais pas si vous avez vu ces images. Au lieu de tourner dans un vrai bar, c'est en fond vert, les cicatrices sont aussi en fond vert, et c'est un peu symptomatique ce film qui est déjà oublié. En fait, il y avait aussi eu Wonder Woman 1984 en début d'année. Est-ce que Lucas, toi qui as vu Haters, est-ce que tu t'es infligé Wonder Woman 1984?
Non, mais moi en fait je connais finalement assez peu l'univers Marvel, ça m'attire peu, j'y vais pas, donc je pourrais même pas en dire du mal, mais c'est vrai que j'ai vu par contre des scènes de combat qui sont sorties sur Twitter de Shang-Chi, et ça m'avait l'air quand même assez plat, que ce soit visuellement ou en termes de mise en scène des combats, et c'est... Et pour contrecarrer ça, je citerai l'autre univers, donc je crois que c'est DC Comics, The Suicide Squad, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et je suis allé voir ça, j'ai même pas vu le premier, je n'y connais rien, mais là pour le coup, bah, ça jaillit, quoi. Évidemment, il y a un second degré permanent, c'est con et ça s'assume comme ça. Un personnage qui envoie des pastilles de couleurs, c'est son super pouvoir. Mais du coup, ça crée visuellement quelque chose d'assez joli avec ce personnage de requin aussi. Et toute cette première partie où donc The Suicide Squad s'enfonce dans la jungle, j'ai trouvé ça assez remarquable. Je suis un peu moins convaincu par la deuxième partie. Mais du coup, peut-être que je vais m'enfoncer dans l'univers d'ici.
C'est vrai que The Suicide Squad, au moins, c'était... un film qui était très coloré, qui assumait d'être un comics totalement, qui voulait pas non plus créer tout un univers autour, ça allait droit au but. C'est un film qui est ironique, donc c'est du second degré, mais je trouve qu'il n'est pas cynique et qu'il se moque pas de son public.
C'est ça, parce que ça prend le temps de caractériser ses personnages aussi, qui deviennent très attachants.
C'est ça, contrairement donc, à un autre blockbuster qui est, je pense, le pire film que j'ai vu cette année, qui est Fast and Furious 9.
Courageux.
J'ai vu tous les Fast and Furious.
Une passion.
Il y en a pas énormément qui sont très bons, on va dire. Mais il y a ce petit côté assez plaisant dans les premiers qui partent un peu dans tous les sens, qui essaient de faire des blockbusters en ramenant des acteurs qui ne meurent jamais. Des fois, il y en a qui sont morts, mais qui reviennent quand même. Donc, ça n'a un peu ni queue ni tête. Et c'était marrant, en fait, malgré lui. Et là, Fast and Furious 9, c'est un film qui se rend compte qu'il est débile, mais qui, du coup, prend ses spectateurs pour des débiles en disant « Non, non, mais on sait qu'on est débile, du coup, on assume vraiment de faire ça. » Sauf que ça marche pas du tout. Et je n'en pouvais plus devant ce film. Et je pense qu'il faut aussi signer peut-être une pétition, arrêter avec Vin Diesel, qui, on va bientôt parler des meilleurs acteurs. Là, Vin Diesel, je trouve que... On avait un adjectif avec Lucas pour parler de notre acteur français qui était charisme bovin.
Je sais pas pourquoi tu me dis ça à chaque fois, je n'ai jamais dit ça.
je t'attribue alors cette expression, ouais, parce
merci.
Que je pense que tu qualifierais Vin Diesel de charisme bovin. Et voilà, je trouve que c'est dommage, les films, c'est bien, j'adore les blockbusters, mais quand c'est un film qui essaie vraiment d'être cynique et qui fait ça, qui n'essaie même pas de rendre ça marrant, je trouve ça assez dommage. Louis, d'autres blockbusters?
Moi, je suis très étranger à l'univers de Marvel. Enfin, en tout cas, j'ai très vite décroché. L'univers de Fast and Furious également, à l'univers de Kaamelott. Donc finalement, je suis passé à côté de pas mal de blockbusters de cette année. Celui que je retiendrai, on en a déjà parlé dans une émission, c'est Stillwater. Rien que pour voir Matt Damon à Marseille. Et parce que c'est chouette de voir enfin un blockbuster, où on a déjà largement parlé dans une émission, donc je vais pas revenir dessus, mais c'est chouette de voir un blockbuster qui a lieu dans cette ville.
Alors pour moi c'est pas forcément un blockbuster, alors je pense que c'est pas vraiment, en tout cas le but est pas vraiment un blockbuster, après à voir comment on qualifie un blockbuster, mais c'est vrai qu'en fait...
C'est plus moi le côté gros budget, le côté casting...
Je trouve que ça fait plus film d'auteur et pas forcément énorme budget, en tout cas pour Stillwater. Dans le sens où effectivement à la base ça peut être un peu vendu à l'image de Pig, j'en conviens, comme un Tekken, en mode Matt Damon va sauver sa fille qui est à Marseille au Beaumet, mais pour autant je trouve qu'en fait ça se vit un peu comme un film Sundance finalement, un film assez finalement Matt Damon c'est un redneck, y a rien qui est très, et en fait c'est un film d'action qui est tellement réaliste que ça en vient presque à être absurde, en fait il n'y a pas d'action très très forte, en fait c'est vraiment un déroulé très 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 logique, et du coup je trouve que ça a pas la saveur blockbuster qui fait un peu le côté n'importe quoi. Et alors on n'a pas parlé d'un gros blockbuster qui du coup ne fait pas partie de l'univers Marvel, ne fait pas partie de l'univers Kaamelott ni celui de Fast and Furious, mais d'un univers très célèbre qui est celui de James Bond. Alors je pense que peut-être il y a que Nicolas qui l'a vu.
Ah, vous ne l'avez pas vu, on va peut attendre. C'est un film qui m'a un peu déçu aussi, parce que Spectre, j'avais revu pour l'occasion, mais je l'avais totalement oublié. C'est un film que j'ai encore oublié. J'aime beaucoup les James Bond de Daniel Craig. Je trouve que c'est un de mes James Bond préférés, en fait. J'adore Casino Royale, notamment. Et là, j'ai été assez déçu avec ce Mourir peut attendre, qui à la fois a des très belles scènes. Il y a des scènes qui font très Metal Gear Solid, où il y a de la jungle, il y a des combats dans la jungle, il y a des bunkers, etc. Et ça, c'est très intéressant, sauf que ça dure 2h30. Et je trouve qu'il se perd un peu vers le milieu du film, il n'a plus grand chose à raconter, on attend un peu que les choses se passent, alors que c'est quand même James Bond, dans le medley que j'ai fait là avec Logo Store, on entend que ça tire tout le temps, non, enfin, on s'attend à ça, ou alors il y a des gadgets, etc. Et je trouve que là, même s'il cherche à le rendre le plus humain possible, en s'inspirant notamment au service secret de Sa Majesté, qui est peut-être mon James Bond préféré, je trouve qu'il manque quelque chose, et ça fait un peu film passage obligé, donc on ne révélera pas ce qui se passe, mais... Vous pouvez peut-être vous en douter. Je sais pas, j'ai pas trop accroché à ce James Bond.
Alors, pour revenir justement à ce que tu disais, Louis, sur Stillwater et l'exemple de James Bond, je vous invite à lire un article de SoFilm. Alors, je suis pas sûre qu'ils soient encore disponibles. Enfin, c'est pas le SoFilm qui vient de sortir, mais un seul film qui est passé il y a pas très longtemps. Où en fait, il parle du coup aussi de la notion de blockbuster maintenant, et qui a aussi une notion commerciale. Et qu'en fait, le Covid a un peu changé les normes, parce que notamment James Bond était un film qui était censé sortir il y a plus d'un an maintenant. Et en fait, si vous allez au cinéma quand James Bond sort, vous pouvez voir qu'on vous vend des voitures, des montres, des Olympus et compagnie. Et en fait, c'est un peu une anecdote un peu à part, mais je trouve que c'est assez représentatif des blockbusters maintenant. En fait, il y a une boîte qui existe, qui en fait peut changer en post-production tous les appareils électroniques qui sont dans un film, et notamment pour James Bond, ils ont changé le téléphone, la montre et la voiture, parce qu'en fait, ce n'étaient plus les derniers modèles. Et qu'en fait, du coup, tout l'aspect commercial en fait, du film qui était du coup en fait de nous vendre des voitures, des montres et de l'alcool et des téléphones. En fait, notamment le Nokia a dû être changé parce qu'en fait on ne vendait pas le dernier Nokia. Et du coup, en fait, je pense que un blockbuster comme on le voit maintenant, en tout cas d'un point de vue américain, Kaamelott ne nous a rien vendu, je pense. Mais en fait, c'est aussi pour vendre quelque chose parce qu'en fait, on sait que y a tellement de gens qui vont venir que en fait, on va essayer de nous vendre de la technologie, des choses comme ça. Et en fait, je trouve que ça a un côté un peu décevant aussi d'apprendre qu'il y a des boîtes.
Après, ça a toujours été, les blockbusters, ça a toujours été quelque chose qui essaie de nous vendre des produits. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Enfin, je savais pas que ça avait été changé en post-production. C'est quand même incroyable comme anecdote.
Et comme tu disais, oui, en fait, c'est vrai que ça a toujours existé parce que du coup, dans ce film, il cite la citation, enfin, l'exemple que je trouve assez intéressant de E.T. Alors, je suis pas une grande fan d'E.T., donc je vais peut-être un peu déformer l'histoire, mais apparemment, l'enfant donne à E.T. des M&M's. Et à la base, ça devait être des Reese's. Alors, je sais pas si vous connaissez les Reese's, mais c'est des petits gâteaux au chocolat fourré au caramel. Et en fait, Reese a refusé parce qu'ils avaient peur que ça entache leur image de marque. Et en fait, M&M's, qui n'était pas du tout connu, a explosé après ça, et notamment à l'étranger. Et en fait, c'est assez rigolo, en fait, l'impact que ça a pu avoir sur les premiers blockbusters. Et maintenant, quand on se dit ça, en fait, c'est dingue. Et je pense que c'est un peu les défauts et les qualités des films, c'est que maintenant c'est quand même un peu trop auto-centré autour de ça, et notamment James Bond, ça presque un peu trop. Et en même temps, il y a une petite saveur, et moi j'ai vraiment hâte d'avoir un John Wick 4.
Je comprends, bah on va bientôt parler de nos attentes de 2022. Mais là, tu parlais de produits, on va repasser à une dimension plus humaine, parce que c'est l'heure de parler assez rapidement des acteurs et actrices.
Il y a quand même un gros blockbuster qu'on n'a pas abordé, c'est Dune.
C'est vrai, ouais. Mais je crois qu'on a peut-être parlé, dans une des émissions. Et parce que là, on n'a plus trop le temps, il faudrait parler des acteurs et des actrices qui nous ont marqué. Donc, Lucas, est-ce que peut-être que Timothée Chalamet t'a marqué cette année?
Non, pas spécialement, mais c'est un acteur que j'aime bien. Mais c'est vrai que, bon, entre The French Dispatch et Dune, que j'ai trouvé pas mal, mais un peu décevant, mais on va pas en reparler. Non, moi, c'est surtout, c'était l'année quand même d'Adam Driver et de Léa Seydoux. Adam Driver, bon, qui confirme son excellent niveau, ce physique massif et cette voix ahurissante, en fait, ça ne peut que marcher. C'est un physique très particulier, je pense pas objectivement, enfin, quand on parle de beauté, je pense pas qu'il rentre dans les standards. D'ailleurs, c'est un ancien militaire, un ancien Marines de la mer américaine, je crois qu'il était moqué, il était vachement moqué par ses amis, mais il en a fait une force, et c'est un charisme assez fou, mais c'est pas que ça, c'est aussi, je pense, un cinéphile, parce qu'il fait quand même de très bons choix de films, lui ou son agent, j'en sais rien, mais il a déjà tourné, enfin, je sais pas quel âge il a, mais il a déjà tourné avec des grands noms.
Jim Jarmusch, que j'adore.
Et donc je pense que c'est son année entre Annette et donc The Last Duel
et Asav Gucci.
Oui, c'est vrai. On va pas reparler, mais et sinon elle est assez doux, évidemment, qui j'ai l'impression, parce que c'est vraiment, évidemment, elle fait partie donc de la famille Seydoux, donc grande famille d'industriels du cinéma, et c'est pas forcément simple d'être apprécié, en tout cas par le milieu critique et cinéphile, quand tu viens de là, parce qu'évidemment c'est plus facile d'accès, mais ça reste une bonne actrice qui là aussi, je trouve, choisit bien ses films, et je crois que là cette année elle marque un tournant, parce qu'elle commence à être vraiment bien vue par tout le monde. Bon, évidemment elle est toujours détestée par certains, mais des registres très différents là aussi, entre Tromperie et France, bien sûr, donc dans France elle est géniale. Alors que sur le coup, j'avais pas trop aimé, mais son interprétation dans France, mais toujours pareil, avec le temps, elle m'a vraiment marqué. J'ai des images qui me restent d'elle, donc je pense que c'est aussi son année.
Elle était aussi dans 007, d'ailleurs, il faut le mentionner. Oui.
Et The French Dispatch.
Est-ce que vous avez des acteurs et actrices différentes qui vous ont marqué cette année? Moi, j'aurais pris les mêmes, Adam Driver et Léa Seydoux.
J'aurais pris les mêmes aussi, et juste pour rejoindre ce que disait Lucas sur Adam Driver, c'est vrai que ce que je trouve formidable, c'est qu'il est capable à la fois d'incarner la douceur autant que la puissance. Et ouais, dans un seul et même acteur qui est capable d'incarner les deux, c'est incroyable.
Il peut faire très peur aussi dans The Last Duel. Des scènes de dialogue où il fait peur, en fait. On ne sait pas vraiment ce qu'il pense. Et ça, c'est vraiment comme ce physique
et
massif.
Et dans Annette, c'est le paroxysme de ça, je trouve.
Ouais,
dans Annette, il y a à la fois des séquences où il joue tout en douceur et tout en retenue. Et des séquences où il est absolument terrifiant de puissance.
Ouais, c'est ça, c'est puissant, c'est massif.
Et je vous invite à regarder la série dans laquelle il a fait ses débuts, qui était Girls, qui est une série réalisée par Lena Dunham. Et en fait, c'est cette série en fait qu'il a fait connaître. En gros, il a joué pendant, je pense qu'il y a 4 saisons de Girls au milieu des années 2000, c'était en 2010. Et en fait, il joue le un des personnages principaux. En fait, c'est le petit copain de Lena Dunham. Et en fait, je trouve que c'est la série dans laquelle son panel en fait de jeux, c'est le plus exprimé. En fait, des fois, il peut être effrayant, des fois, il peut être adorable, etc. Et en fait, juste après ça, à la fin de la série, il a fait Kylo Ren. Et du coup, pour Star Wars, et en fait, il y a eu un gros choc pour pas mal de gens qui se sont dit mais qui est cet acteur laid, qui n'a aucun charisme pour jouer un méchant dans Star Wars, etc. Et en fait, c'est vrai que moi, je suis allée voir par hasard Star Wars et je me suis dit waouh, c'est l'acteur de Girls. Et en fait, ça m'a assez impressionnée. Et en fait, moi, pas du tout. J'ai pas forcément les mêmes acteurs que vous. Par exemple, Léa Seydoux, je suis assez surprise parce que je crois que j'ai vu aucun film d'elle cette année, enfin avec elle. Non, moi, ça sera. Alors, il a peu joué, mais en fait, vraiment, je trouve que le retour de Matt Damon me fait tellement plaisir. Je trouve que c'est un acteur qui est exceptionnel dans Stillwater, dans Le Dernier Duel. Dans Le Dernier Duel, je n'en pouvais plus. Genre, je me disais, mais vraiment, cet acteur est un génie et est vraiment d'une douceur et d'un jeu tout le temps juste, en fait. Et dans Stillwater, quand je disais que ce n'était pas un film d'action, c'est parce qu'en fait, il réussit à amener quelque chose qui est tellement impressionnant et tellement. C'est un jeu très doux et très juste, en fait, genre vraiment presque du documentaire. Je pense que ce type est vraiment un très très bon acteur. Et après, un acteur qui a déjà explosé et que je pense qu'on va voir partout et qu'on a vu pas mal de fois cette année au cinéma, ce sera Vincent Lacoste. Et en fait, vraiment, je trouve qu'il a un jeu qui s'affine, mais peut-être quand on parle de personnes qui ont de très bons agents, je pense que Vincent Lacoste, il a un très bon agent, mais qu'il faut qu'il fasse un peu attention. Parce que ça me fait un peu peur. Je crois que Les Illusions Perdues, c'était un peu le film d'entre-deux où je me dis, peut-être qu'on le voit trop. Et que ça va faire comme Adam Driver. Au bout d'un moment, on va se lasser, en fait, dans quelque chose qui peut être toujours un peu pareil. Et j'aimerais. En fait, je pense que c'est aussi ma critique en général sur le cinéma cette année. C'est que je trouve qu'il y a peu de jeux qui m'impressionnent ou en tout cas qui me touchent. Et j'ai l'impression, en fait, qu'on joue un peu la même sauce tout le temps. Et c'est pour ça que Stillwater, même s'il m'a énormément rendu... Enfin, c'était assez confus quand je l'ai vu. Je savais pas trop si j'ai aimé ou pas. Mais en fait, j'ai trouvé que ça apportait quelque chose de différent. Et quand on parle des acteurs qui ont vraiment explosé cette année et tout, je trouve qu'en fait, il y a peu de différence. Trois blockbusters d'affilée avec Adam Driver. Trois gros succès avec Adam Driver au bout d'un moment... C'est presque trop, en fait. J'ai peur.
Bah écoute, le cinéma te déçoit, mais peut-être que les séries t'ont régalé cette année. Alors cette fois-ci, je vais citer Lucas. J'ai bien pris note, je n'invente pas. Il m'a dit « Squid Game, c'est quand même pas foufou ». Donc Lucas, est-ce que tu peux te lancer sur les séries, peut-être ?
Bah ouais, Squid Game, c'est quand même pas foufou. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais
j'ai pas vu.
J'ai pas voulu le voir non plus.
Et moi, je suis arrivée avant la vague. Du coup, au moment où tout le monde... Non, mais dans le sens où genre, j'ai senti qu'il y avait un peu une hype, et en fait, à chaque fois, je rate les hypes, et du coup, je regarde pas les séries parce que je suis assez trop tard. La Casa de Papel, je suis arrivée bien après, et du coup, j'y suis pas allée parce que j'étais assez trop tard. Et du coup, le fait de pas me faire spoiler, et donc, du coup, pouvoir me lancer dedans, ça m'a fait un peu plaisir. Mais pour autant, en fait, j'ai trouvé que c'était... En fait, c'était un peu décevant. En fait, le premier épisode, le deuxième épisode, je rentre dedans, je trouve qu'il y a un format qui est assez intéressant, il y a un format... qui change, et après en fait on perd un peu la saveur, et notamment, mais c'est vraiment un syndrome de la Casa de Papel, de Stranger Things et compagnie, c'est qu'en fait ça se fait dévorer par Netflix lui-même, en fait. La série Netflix se fait dévorer par Netflix, qui fait une telle com dessus, qui met tellement en avant et qui gâche tout, en fait. C'est vraiment, il y a peu de... En fait, au bout d'un moment, on commence à voir les ficelles. C'est comme si toute la série elle devenait complètement transparente de toute la ficelle de l'industrie, et je trouve ça un peu dommage parce que ça a été vendu comme une série qui sortait de cette industrie là et qui finalement s'est vite rattrapée.
C'est vrai que je suis très friand, moi, de cinéma ou de séries coréennes, et je me suis pas lancé dans Squid Game alors qu'il aurait vraiment pu me plaire, parce que j'ai été écœuré de toute la hype et de tout ce que Netflix a fait autour, comme tu le dis. Moi, j'en ai été écœuré, et c'est pour ça que je me suis pas lancé. Alors même que si ça avait été peut-être un peu plus discret, enfin, c'est dommage de dire ça, mais je me serais peut-être lancé, j'aurais peut-être adoré.
Toi, Lucas, du coup, Squid Game n'est pas foufou, mais est-ce que tu as trouvé des séries qui t'ont plu cette
année ? Ouais, une série Netflix pour le coup qui est Arcane, qui est une série d'animation et qui est inspirée du jeu, donc League of Legends, qui est, je crois, le jeu le plus joué au monde et auquel je joue depuis 10 ans maintenant. Donc,
quand j'ai anniversaire.
Comment?
Est-ce que tu es un rang diamant, rang platine?
Non, je suis or, mais c'est terrible. Mais quand j'ai appris qu'ils allaient sortir une série, je m'attendais à bon, un truc un peu bof, fanservice et tout ça, ce qui est un peu le cas, ce qui est du fanservice, mais en fait l'animation est absolument dingue, c'est magnifique, vraiment. Bon, l'histoire, l'escalade, c'est... Mais l'animation plus la mise en scène, en fait, ils arrivent à faire de l'animation et t'as l'impression que c'est une caméra à l'épaule, ce qui rend les combats ultra vivants. En fait, c'est un studio français qui a fait ça, qui est Fortiche. Et donc je parlais tout à l'heure de l'animation française qui brille aux yeux du monde, mais là le jeu le plus joué plus Netflix et animation française, là donc c'est Fortiche. Ils étaient 300 je crois à faire cette série, et j'écoutais les réalisateurs, donc j'ai oublié le nom, pardon, qui disaient qu'en fait chaque animateur, une journée de travail, c'était 0,7 secondes d'animation. Et ça se ressent parce que c'est vraiment fait au poil, tout s'enchaîne très bien, et ça rend, ouais, les combats hyper prenants. Et visuellement, bon, il y a un monde qui est celui du jeu vidéo qui était déjà présent, mais il l'exploite super bien. Donc, et franchement, même si vous jouez pas aux jeux vidéo, je connais des personnes qui ont regardé et qui ont quand même apprécié. Vous ne perdrez rien.
J'en profite pour faire une grande dédicace à Arthur et Valentin. Pas un jour se passe sans qu'ils me disent « Est-ce que tu as regardé Arcane ?» Donc je pense que oui, c'est vraiment pas mal, et ça me fait penser au fait que dans l'animation, il y a un film qui va sortir bientôt, c'est Princesse et Dragon, des studios Ankama. Et du coup, c'est ceux qui ont fait Dofus. Et c'est vrai que les studios français sont très très forts sur ça.
Ah bah ouais. Est-ce que tu as regardé des séries cette année, qui sont sorties cette année et qui t'ont marqué ?
Eh bien alors, en fait, je me suis rendu compte cette année que j'avais épuisé mon champ de séries. J'ai commencé Maid, qui était pas mal sur Netflix, qui avait un format assez particulier. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas très envie de regarder des séries. Et en fait, j'avais envie de regarder des animés. Et du coup, j'ai commencé tous les animés que je n'avais jamais regardés. Demon Slayer, Cowboy Bebop. Et en fait, je passe ma vie à regarder des animés. Et en fait, Cowboy Bebop a été relancé un peu parce que il y a la série Netflix en ce moment qui est sortie. Apparemment, elle n'est pas très bien. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment des gros talents en fait dans l'animé, et que peut-être ça a été délaissé pendant longtemps. Et après ma grande passe Attaque des Titans, j'ai décidé de tout faire, de tout regarder, de tout ce qu'il y avait disponible. Et voilà, et c'est peut-être ma recommandation, c'est Cowboy Bebop. Vraiment, c'est magnifique.
Et toi, Louis, une série peut-être que tu as vu cette année ?
Sur cette fin d'année, du coup, c'était Ne montre jamais ça à personne, sur Elsa, dont on a parlé tout à l'heure. Et plutôt en début d'année, c'était En Thérapie, de Nakash et Toledano. On en a déjà un peu parlé, je crois que c'était une de mes recommandations lors de l'émission 11, avec un Frédéric Pierrot qui est incroyable dans son rôle de thérapeute. Et en fait... comme ce sont simplement des consultations et que c'est simplement du chant contre chant, toute la force réside dans les dialogues et dans leur interprétation et dans ce que ces dialogues disent de la santé mentale des personnages de la série. Elle peut paraître un petit peu longue, il y a beaucoup d'épisodes, mais ça se regarde très bien, très facilement, et j'ai adoré. Elle est sortie il y a du coup plusieurs mois, mais je la conseille vivement.
Merci, moi je me contenterai de recommander une série que je revois en ce moment, qui n'est pas de 2021, mais qui est Les Sopranos, tout simplement, car je revois les 90 épisodes des Sopranos. J'ai vu le film qui est sorti, qui s'appelle Many Saints of New York, pareil, qui a duré 2 semaines à l'affiche, même pas, et qui est un film qui n'avait aucune importance, qui est très triste, parce que c'est écrit par David Chase, qui a créé la série Les Sopranos, mais c'est réalisé par Alan Taylor, qui a notamment fait Thor, le monde des ténèbres, et Terminator Genisys, soit le pire Terminator. Et donc ça n'augurait pas du bon, et le film n'est pas très bon en soi. Maintenant, je pense qu'on a fait un peu le tour de 2021. On peut se lancer sur nos attentes de l'année 2022. Après, encore une fois, et pour la dernière fois de cette émission, un petit medley. Fear is a tool. When that light hits the sky... It's not just a call. It's a warning. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are. Captain. Why is that? It's one of life's mysteries, sir.
Yeah.
Do you know who my girlfriend is?
Barbra Streisand?
Barbra Streisand.
Sand.
Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like beaches.
Barbra Streisand?
No, but stray sand.
Sand. But the film is a sad thing for. This is fate that brought us together. But she's lived it 10 times or more. Our roads took us here. She could spit in the eyes of fools. They're not my director. They ask her to focus on.
I'm vengeance. je ne sais pas si vous avez reconnu tous les extraits diffusés, mais il y avait notamment Batman, oui, qui sort en mars 2022. Il y avait Top Gun 2, évidemment, vous connaissez mon amour pour Tom Cruise. Il y avait le film d'un certain petit réalisateur qui s'appelle Paul Thomas Anderson, je crois, Lucas.
Oui, c'est ça, Licorice Pizza, qui est déjà sorti au moment où passe cette émission. Mais je sais absolument rien du film, je fais juste confiance à la signature de Paul Thomas Anderson. Donc je sais qu'il y a un Bradley Cooper en starlette des années 70 apparemment. Donc pourquoi pas. Mais il n'est pas le personnage principal, enfin, je crois que c'est...
Je crois que c'est sur l'histoire de Barbara Streisand.
D'accord. Ce que j'ai compris. Non, mais c'est bien de pas trop en savoir. Il y a aussi Bond the Batman que j'avais mis dans ma liste, que j'attends beaucoup. En plus, en tout cas, les premières images sont très rassurantes. Robert Pattinson, évidemment. Mais même Matt Reeves, en fait, le réalisateur, qui, en termes de blockbuster, c'est quand même Les Derniers, La Planète des Singes, que j'ai vu que le premier, je crois, mais que je trouvais très bon. Donc je suis plutôt confiant pour ça et j'ai vraiment hâte. Plus français, il y a Maigret, la jeune morte, qui va être incarné par Gérard Depardieu. Mmh. Et c'est réalisé par Patrice Lecomte, qui est un réalisateur pour lequel j'ai de la sympathie. Et d'ailleurs, en cette période où Éric Zemmour, on va pas faire de politique, je vous rassure, où Éric Zemmour monte en puissance, je vous encourage à taper sur YouTube Patrice Lecomte clash Zemmour. C'est une petite vidéo de 2 minutes 30 sur le plateau de On n'est pas couché qui fait vraiment plaisir et qui est, je vous encourage. Sinon, en termes de blockbuster, je crois que c'est l'année du prochain Mission Impossible 7.
Oui, évidemment.
Je veux voir Tom Cruise se jeter en l'air avec une moto. Je veux le voir aller dans l'espace. Enfin bref, je veux voir Tom Cruise.
Je veux voir Tom Cruise aussi. On le verra en plus à Top Gun, puis Mission Impossible. Donc, quelle année qui s'annonce,
ouais.
Toi, Louis, est-ce que tu veux voir Tom Cruise ou d'autres acteurs cette année?
Moi, je suis surtout très impatient de voir qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, parce que j'en ai pas eu assez encore.
Ah, après les Tuches 4,
pas du tout.
Les Tuches 4 et après, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?
Non, évidemment pas du tout. Je rejoins Lucas sur Batman pour voir un Batman joué par Robert Pattinson. Comme tu l'as dit, les premières images sont très rassurantes. Elles m'ont rassuré aussi, donc je suis très impatient. Et pour recomposer le duo qu'a fait Twilight, il y a également Kristen Stewart qui va jouer. Ouais, qui va jouer Lady Di dans le Spencer de Pablo Larraín, donc ça aussi j'ai grand hâte de le voir.
Ça sort le 17 janvier, mais sur Amazon, malheureusement, pas au cinéma.
Mais ça va, j'ai un compte, donc je pense que je vais me régaler. C'est Lucas en a parlé, ça va être encore une année de suite et de belles suites. Il y a évidemment Matrix, Resurrections.
Il est sorti. il y a 2 semaines quand
l'émission sera
diffusée, oui.
Bonne année.
Merci à toi. Bonne année.
je l'aurais donc sûrement vu. Et Creed 3. Je suis un grand fan, moi, de Creed et avant ça de Rocky. Évidemment, et d'autant plus impatient que ça va être un film sans Stallone. Ça va être le premier de toute cette longue saga sans Stallone. Ça va être réalisé par Michael B. Jordan. Il va également jouer donc Creed. Je suis très impatient de voir ce que ça donne. Et là, je te tends une perche, Nico. Je crois qu'il y a un petit Scorsese également qui va sortir. Killers of the Flower Moon.
J'avais oublié qu'il sortait en 2022, mais évidemment.
Et comme tout le monde le sait, on est très fan de Scorsese.
En plus, bonne nouvelle, il est produit par Apple TV, donc il sortira au cinéma. Et ça nous évitera peut-être d'aller en Angleterre pour voir le film de Scorsese, mais je serais prêt évidemment à aller en Angleterre, voir plus loin pour voir.
C'est une anecdote qu'on racontera peut-être dans une prochaine émission si on l'a pas déjà raconté.
Je pense qu'elle est filée, les gens peuvent comprendre plus ou moins. Donc évidemment, Scorsese, vous le savez très bien. Il y a The Northman de Robert Eggers, oui, qui a fait The Lighthouse. Je n'ai toujours pas vu The Lighthouse, donc ce serait peut-être l'occasion de voir The Lighthouse avant de voir ce film.
Plus sacré casting aussi, je crois qu'il y a Nicole Kidman et je sais plus qui, mais enfin.
Je crois qu'il y a Joaquin Phoenix dedans.
Possible.
Si je me trompe pas. Il y a aussi très envie de voir Batman, évidemment, j'adore Batman. Il y a un nouveau film des frères Coen qui sort donc sur Apple TV+, encore une autre plateforme, qui sort le 14 janvier. Ça s'appelle The Tragedy of Macbeth. C'est
dingue au niveau de la photo.
Oui, et je crois que ça réalisé que par un seul des frères Coen.
Oui, parce que l'autre a arrêté.
Ouais. Mais... malheureusement. Toi, Adeline, tu nous parlais de John Wick 4 tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres films que tu attends?
Moi, je vis que pour des nouveaux films avec Nicolas Cage ou alors avec Keanu Reeves. Sinon, Matt Damon, je l'attendrai au tournant. Peut-être qu'il pourra faire des films. Je suis là. Je pense qu'à l'heure où l'émission sera sortie, on aura déjà vu Spider-Man. Mais c'est très étrange. J'ai jamais été très happé par les Spider-Man, en tout cas récents, depuis la deuxième trilogie. Et en fait, je sais pas pourquoi... Il y a une énorme hype qui s'est vraiment développée, et j'ai l'impression même auprès de mes amis.
Mais parce que ça réunit plusieurs générations de Spider-Man. Nous, on a grandi forcément avec la première.
Qui est le premier, qui est le meilleur.
Et le premier, je le meilleur. Pense aussi.
Ouais, celui de Sam Raimi, j'ai toujours regardé.
Sam Raimi, sont juste incroyables. Et bah, je sais pas, moi je sais que mon petit frère a grandi avec les derniers, et je pense que ça réunit en fait donc, plusieurs générations de Spider-Man, et c'est pour ça qu'il y a une hype un peu commune.
Ouais, et en fait je me suis rendu compte qu'en fait il y avait vraiment, malgré ce qu'on a pu croire tout à l'heure, en fait j'ai jamais vraiment regardé des Marvel, et vraiment je suis pas du tout fan de cet univers, je suis plus fan de l'univers de DC pour le coup, et en fait je me suis rendu compte que j'avais vraiment été très très fan de Spider-Man, et que peut-être sur l'univers... des super-héros et des choses comme ça, en fait Spider-Man avait vraiment une grande présence pour moi, plus que Batman, qui pourtant d'un point de vue cinématographique a une plus grande renommée, en fait tous les Batman ont été faits par des réalisateurs très connus et tout, mais la trilogie de Sam Raimi est vraiment dingue pour moi, et autant qu'en fait je me suis rendu compte les premiers X-Men, et que j'avais un peu un goût de nostalgie de ces moments-là, et en fait je pense que Spider-Man Homecoming, on vous en parlera dans peut-être notre prochaine émission, va surfer en fait sur ce goût de la nostalgie des années 90.
Et malheureusement, donc tu parles des X-Men, parce que oui, c'était des films de Bryan Singer, les Spider-Man c'est des films de Sam Raimi, et c'est une époque où le cinéma de super-héros n'est pas du tout le vent en poupe, et où donc on confiait des films, c'est bête à dire, mais à des réalisateurs qui avaient quelque chose à dire sur le sujet. Ce qui n'est pas le cas des derniers Spider-Man qui sont réalisés par John Watts, qui n'a pas fait grand-chose et qui n'a pas de vraiment d'idée de mise en scène ou de direction, qui juste se contente d'appliquer des formules de Marvel Studios, et c'est pas une recette de cuisine, cinéma, c'est pas, il faut pas que ce soit des formules. Donc j'ai un peu peur de ce film qui est, oui, donc je suis content d'en voir Docteur Octopus. Je suis content d'en voir éventuellement Tobey Maguire, mais ça sera juste, je pense, à surfer sur la nostalgie et faire des petites blagues par-ci par-là, malheureusement.
Et comme tu as dit, les premiers, c'est presque des thrillers, en fait. Mmh. On n'est plus dans les codes de ceux des derniers.
Mais, j'ai revu justement Spider-Man 2 de Sam Raimi il y a une semaine. Je propose qu'on passe au roco, car il nous reste 5 minutes d'émission. Donc je commence les roco. Je vais d'abord recommander Spider-Man 2 de Sam Raimi, écoute, qui est toujours un film vraiment excellent, très bien réalisé, qui est en phase avec son époque et dont on se lasse pas, tandis que je ne sais pas si les générations suivantes reverront avec plaisir les Spider-Man qui sont sortis là récemment. Et j'ai envie de recommander un film, d'un livre, que tu as lu peut-être, Lucas, je ne sais pas, je t'ai envoyé aussi l'exemplaire presse, qui s'appelle Steven Soderbergh, Anatomie des fluides, écrit par Pauline Gage. Donc Steven Soderbergh, c'est un cinéaste dont on n'a jamais parlé ici, mais qui pourtant est très intéressant, qui a réalisé les Ocean's 12, Ocean's 11, etc. Il y a beaucoup d'autres films, notamment Sexe, Mensonge et Vidéo.
C'est une filmographie hyper éclectique.
Et c'est ça, et c'est un cinéaste que j'avais toujours un peu de mal à cerner. Mais comme toujours chez Play Society, c'est un livre qui est très bien construit, c'est un essai qui fait 150 pages, et qui arrive justement à capter et expliquer le talent de Soderbergh. Ça donne envie de découvrir certains de ses films, ou d'en revoir d'autres sous un autre point de vue. Ça m'a même donné envie de voir Magic Mike, je ne sais pas si vous avez vu ces films sur le striptease avec Channing Tatum. Et donc à un moment, j'ai relevé une phrase de Soderbergh qui dit « Je ne suis pas un auteur, je ne veux pas être Paul Thomas Anderson ». Et en fait, c'est un cinéaste qui assume de pas forcément avoir, qui a des grands thèmes mais qui ne veut pas forcément faire que des chefs-d'œuvre, et qui continuellement essaie, bricole. Il s'exerce dans presque tous les domaines. Il est chef-op, il est monteur. Des fois, il est producteur de ses films. Il a même fait la distribution de ses films pour Logan Lucky, qui est un thriller qui est sorti en 2017. Donc ça envoie l'image d'un cinéphile qui arrive à faire du cinéma à la fois expérimental et grand public. Donc c'est un livre que je recommande pour un peu cerner ce réalisateur. Louis, une recommandation?
Tu recommandes un film et un livre, moi je vais recommander un podcast.
La séance du dimanche.
Oui, tous les jours je le recommande, et partout autour de moi je le recommande. Mais du coup, pour nos auditeurs, à écouter après la séance du dimanche, c'est le numéro 41 de We Love Tell From The Click. J'en ai déjà recommandé un numéro, mais là le dernier qui est sorti à l'heure où on enregistre cette émission, c'est consacré à Uncut Gems, un film qui pour le coup faisait partie de notre top 2020, l'année dernière donc, avec en invité, donc en plus de l'équipe de TFTC, Alex Maggi, que je ne connaissais pas, un scénariste et néo-réalisateur, que je connaissais pas avant d'écouter, mais l'ambiance générale est très bonne, les anecdotes autour du film et les blagues autour du film sont très bonnes. Moi j'ai passé 1h12 vraiment très très tranquille à l'écouter dans les transports, donc je vous le recommande.
Adeline, toi, une petite recommandation pour bien ouvrir l'année?
Alors ce sera une série. Il y a une série qui est très connue dans les années 90, c'est Sex and the City, et en fait sera sortie, je pense, à l'heure où on écoute l'émission, la nouvelle saison qui s'appelle And Just Like That, et c'est en fait je pense, plusieurs dizaines d'années après la fin de la série, puisqu'elle s'est terminée en 2007, donc 13 ans plus tard. Le réalisateur de la série refait une saison où en fait on suit non plus maintenant des trentenaires mais des cinquantenaires dans leur vie à New York et comment ça a changé. Et j'ai assez hâte de cette série et voilà, je pense que c'est une recommandation à l'aveugle puisque je ne l'ai pas encore vue, mais je vous conseille en tout cas de regarder les premières saisons de Sex and the City et surtout de regarder True Blood.
Évidemment, toujours. Lucas, toi ?
Ouais, rapidement, en ce moment, il y a le nouveau film d'Yvan Attal, Les choses humaines, qui est au cinéma. Bon, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça m'évoque donc les films de procès, qui est un genre que j'aime beaucoup, et un genre auquel Henri-Georges Clouzot s'est exercé. Je tiens à parler de Clouzot
à chaque émission.
En ce début d'année. Et Dans la vérité, qui est son film de 1960, et qui est peut-être un de mes films préférés, mon film préféré selon les jours, qui revient sur... un procès où Brigitte Bardot est accusée d'avoir tué son amant, et au-delà de voilà de ce film de procès où on va chercher la vérité, où on va d'où le nom du film, c'est surtout une histoire d'amour et enfin de je t'aime moi non plus entre Brigitte Bardot et Sami Frey, qui est déchirante, qui est magnifique, et donc pour moi qui est le meilleur film de procès. Donc ça s'appelle La vérité d'Henri-Georges Clouzot.
Eh bien, merci pour toutes ces recommandations. La séance du dimanche, c'est déjà fini pour aujourd'hui, malheureusement. Mais on va revenir tout au long de l'année sur les ondes de Radio Campus Paris et en podcast. Vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur Instagram, @vitamineciné, nous appelons. On fait des petites publications. On est un peu moins actifs en ce moment, mais au moins, vous ne raterez aucun épisode. Et j'ai envie de dire, notre mission, si vous l'acceptez, cette année, c'est continuer à partager notre amour du cinéma sur Radio Campus Paris. À bientôt.
À très vite.
À très vite.